Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et à la fois intimidé de prendre la parole devant l'Assemblée réunie pour cette journée communautaire à Lignon-Barrois. C'est peut-être la première fois d'ailleurs que je viens ici. Pour la petite histoire, donc, je m'appelle Jean-Louis Lemaire, je fais partie de l'église de la Vosges à Darnay et je fais partie de ce qu'on a mis en place cette année, le collège pastoral. Donc, nous sommes trois personnes, les deux Christian et moi-même. Et je dirais qu'on a mis en application ce collège pastoral où on a besoin de se soutenir les uns les autres, puisque je me suis proposé à la place de Christian de l'aider et de prendre la prédication aujourd'hui, et il m'a envoyé la balle. Je ne m'y attendais pas si tôt d'ailleurs, mais bon, quand on s'engage, voilà. Donc je suis conscient de la grande responsabilité qui m'est confiée, et à la fois je suis confiant que Dieu pourvoit. Notre culte de ce matin, comme tous les cultes, Pierre-Nicolas l'a dit tout à l'heure, doit être considéré comme un moment de reconnaissance. Il permet d'une part de clôturer la semaine écoulée en rendant grâce à Dieu pour ses bienfaits et en recevant son pardon pour nos erreurs. D'autre part, il nous ouvre sur la nouvelle semaine. La parole de Dieu nous oriente et sa bénédiction nous est promise. Ainsi, toutes nos activités familiales, professionnelles, sociales, culturelles, sont encadrées par un culte, un acte cultuel, un temps de reconnaissance pour celui qui est la source de toute vie et de tout bien. Ma lecture journalière me conduisait au moment de la rédaction de mon message dans le livre du Deutéronome, et en particulier au chapitre 26. Je lirai les versets 1 à 3. Deutéronome 26, chapitre 26, versets 1 à 3. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le peuple du Seigneur. Tous les mots qu'on a entendus tout à l'heure. Tous ces qualificatifs que nous avons. Ce peuple du Seigneur doit vivre dans la reconnaissance. Après son entrée en terre promise, il devait offrir les prémices de sa récolte et se réjouir devant Dieu avec le lévite et l'immigré. Vivre dans la reconnaissance, n'est-ce pas la vocation fondamentale du peuple de Dieu? On peut lire en Hébreux 12, 28, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Mais ce matin, je souhaite vous transporter, non pas dans le livre de Deutéronome, mais 1000 ans plus tard. Nous allons aller en 486-465 avant Jésus-Christ, nous restons dans l'Ancien Testament, et nous arrivons dans un temps où il y avait domination du peuple perse. Je souhaite avec vous parcourir le livre d'Esther et en comprendre le contexte et l'histoire décrite. Ceci fait, je dirais, la suite à une étude biblique qu'on a fait avec Jean-Pierre. Et c'est vrai que mes messages, j'en fais peu, les messages me permettent effectivement d'approfondir les études que l'on fait dans la semaine et que l'on fait dans l'Église. Donc dans le livre d'Esther, alors Esther, il va falloir parcourir quelques passages, donc je vous invite à ouvrir votre Bible. Donc au livre d'Esther, et on va faire un peu d'histoire. Ça risque d'être un peu long, mais je pense qu'effectivement c'est important de savoir dans quel contexte nous sommes. Donc Esther, au temps d'Assuérus, donc c'était sa troisième année du règne, le roi perse organise dans sa capitale Suse une fête de 180 jours pour les grands personnages de l'Empire et un immense festin de 7 jours pour le peuple. Le 7e jour, il ordonne à 7 eunuques d'aller quérir la reine Vasti afin que tous voient sa beauté. Devant le refus de celle-ci de se présenter devant le roi et ses convives, il demande l'avis de ses 7 sages, grands officiers perses et mèdes. Ceux-ci jugent le comportement de la reine comme une atteinte faite à tous les maris du royaume. Ils conseillent au roi de faire publier dans tout le royaume une ordonnance signifiant le retrait de son titre royal. Vasti, la reine, est déchue. Les serviteurs du palais proposent au roi de faire venir au palais les plus belles jeunes vierges du royaume, afin que le roi choisisse la future reine. Mardochée, un judéen de la tribu de Benjamin, le peuple de Dieu, vivant incognito à Suse, envoie au palais Esther, une cousine orpheline qu'il avait adoptée. Subjugué par son charme, l'eunuque gardien des femmes l'installe dans le palais, avec 7 servantes à sa disposition. Pendant toute une année, Esther est mise à part dans la maison des femmes, où 7 servantes prennent soin d'elle pour la préparer à la rencontre avec leur roi. Pendant ce temps, et en tout anonymat, Mardochée venait quotidiennement à la maison des femmes prendre des nouvelles de sa cousine. Esther fut présentée au roi, qui, séduit, la choisit comme reine. Alors que Mardochée était assis à la porte des appartements royaux, il surprit 2 eunuques qui veillaient à la sécurité du roi, s'irriter et projeter d'attenter à la vie d'Assuérus. Il les fit dénoncer en son nom par Esther. Les 2 gardiens du seuil furent pendus et l'affaire consignée dans les annales royales. Dans la 12e année du règne, Aman, fils de Hamada, descendant d'Agag, est promu premier dignitaire du palais et le roi impose que tout s'incline devant lui. Mardochée, qui fréquente toujours incognito le palais, refuse la prosternation et rétorque aux gardes qui lui font le reproche qu'il est juif. Ceux-ci le dénoncent alors à Aman qui, dès lors, dit que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Pris de colère, Aman projette d'exterminer la diaspora judéenne de l'Empire. Le tirage du sort, qu'on appelle le pour, qui s'effectue au début de l'année calendaire, désigne le jour favorable. Aman obtient l'approbation du roi en présentant le peuple qui souhaite exterminer comme un peuple dissident pour lequel les lois royales sont lettres mortes et s'engage même à verser 10 000 talents au trésor royal. Je vous invite donc à prendre quelques textes pour bien comprendre effectivement le contexte de ce livre. Nous lirons au chapitre 3 les versets 7 à 11. Donc Esther, chapitre 3, versets 7 à 11. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 2e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. » Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires, pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main, et le remit à Aman, fils d'Amagada, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Nous lisons dans ce passage que le roi accorde à Aman les pleins pouvoirs et lui laisse justement son anneau, le sceau à poser sur les décrets. Le décret d'anéantissement des Juifs est diffusé dans toutes les provinces de l'Empire afin que les exterminateurs se tiennent prêts pour ce jour-là. Mardochée apprend la promulgation du décret. Il parcourt alors les rues, les vêtements déchirés, revêtus d'un sac et de cendres, tant et si bien qu'il finit par attirer sur lui l'attention de la reine Esther, qui, je vous le rappelle, est au palais. Nous lirons dans Esther 4, les versets 1 à 17. Esther 4, versets 1 à 17. Et nous lirons bien, nous emprunterons de l'attitude de Mardochée. Esther 4, versets 1 à 17. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements et s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoyait des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Hatak se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui y était arrivé. Et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fît tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, je périrai. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché: « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Comme Esther prétexte ne pas vouloir briser l'isolement du roi sous peine de mort, Mardoché lui fait remarquer que le décret concerne tous les Juifs et qu'elle ne doit pas se croire à l'abri de loin de son peuple dans les palais du roi. Esther, convaincue, lui dit en substance: « Va rassembler tous les Juifs de Suse. Jeûnez à mon intention. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours et 3 nuits. De mon côté, avec mes servantes, j'observerai le même jeûne. Ainsi préparerai. J'entrerai chez le roi malgré la loi, et s'il faut périr, je périrai. » Le troisième jour, Esther, qui reçoit la faveur du roi, l'invite justement à dîner avec Aman. Lors du festin, Esther, dont la demande a été par avance acceptée par le roi, renouvelle l'invitation pour le lendemain. Mais Aman, lui, rentrant joyeusement chez lui après les honneurs qui lui ont été rendus par la reine, s'emplit de colère en voyant Mardoché, le juif, refuser de se prosterner devant lui. Alors il recueille avec joie l'idée de sa femme, Zeresh, de pendre Mardoché haut et court dans sa cour, sur une potence de 50 coudées. Cette nuit-là, le roi, incapable de trouver le sommeil, demande qu'on lui fasse la lecture des annales. L'épisode du complot des gardes lui est remémoré, ainsi que le fait que son sauveur, un nommé Mardoché, n'a pas été récompensé. Lorsqu'Aman se présente au palais le lendemain avec l'intention de lui demander la tête de Mardoché, Assuérus lui demande comment récompenser un fidèle parmi les sujets fidèles, qui a toute l'amitié du roi. Aman, se croyant désigné, répond qu'il serait convenable d'organiser une procession dans la ville, vêtue des habits royaux, montée sur la monture royale, et en proclamant que c'est là un homme que le roi peut honorer. C'est ainsi que ça se retourne contre lui, puisqu'il se trouve obligé de tirer Mardoché à travers la ville. Au cours du second festin, on le voit aussi dans le livre d'Esther, Esther demande la parole au roi. Celui-ci s'engage par avance à exaucer son désir. Elle dénonce un complot visant à anéantir de nombreux sujets du roi, dont la reine elle-même, et demande pour elle et son peuple la vie sauve. Surpris, le roi lui demande qui donc a manifesté cette intention criminelle. Esther désigne Aman et dévoile alors son appartenance ethnique. Abasourdi, le roi sort faire un tour dans ses jardins et revient au moment où Aman, tentant d'obtenir la grâce royale, semble menacer la reine. Indigné, Assuérus fait pendre son premier vizir sur la potence initialement prévue pour Mardoché. La maison de Aman revient à Esther et Mardoché est admis auprès du roi. Celui-ci remet à Mardoché son anneau royal en même temps qu'il est plein pouvoir en cette affaire. Vous-même écrivez au sujet des Juifs au nom du roi comme vous le jugerez bon. Un nouveau décret autorise justement les Juifs à massacrer leur ennemi. C'est vrai que la fin est un peu saignante. Le jour prévu par Aman. Il est supposé compenser le fait qu'une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau royal ne puisse être révoquée. Après que la plus large publicité eut été faite à ce décret, le jour venu, les Juifs traitèrent comme bon leur semble ceux qui les haïssaient, mettant la main sur ceux qui leur voulaient du mal. Ils ont massacré 75 000 sujets du roi. Les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutenaient les Juifs, car la crainte de Mardoché les avait saisis, celui-ci devenant de plus en plus puissant. Pour la même raison, nombre de gens du pays se firent juifs. Ayant obtenu la tranquillité de la part de leur ennemi, les Juifs le lendemain se reposèrent et en firent un jour de festin et de réjouissance. La fin du récit précise que l'histoire de Mardoché fut notée dans le livre des chroniques des rois de Mède et de Perse. De même, il est important de noter le contenu du dernier verset de ce livre d'Esther, au chapitre 10, le verset 3. Il est dit « Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs, aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. » On pourrait préciser, comme il est dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 26, verset 19, et j'interprète, c'est une lecture possible, que Mardoché recherche le bien de son peuple et parle pour le bonheur de sa race, afin qu'il lui donne, sur toutes les nations qu'il a créées, la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que son peuple soit saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il lui a dit. Depuis ce temps, les Juifs ont instauré la fête du Pourim, qui commémore la délivrance du peuple de Dieu du plan d'extermination décrété par Aman. Nous pouvons le lire au chapitre 9, versets 26 à 32 d'Esther, justement pour bien comprendre cette inauguration et cette fête du Pourim. C'est pourquoi on appela ces jours Pourim, du nom de Pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux et pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abical, et le juif Mardoché écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Pourim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité. Pour prescrire ces jours de Pourim au temps fixé, comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis par eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leur cri. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Pourim, et cela fut écrit dans le livre. Cette fête du Pourim, cette fête qui célèbre dans l'allégresse ce retournement de situation, invite les familles juives, des adultes jusqu'aux enfants, à être reconnaissants pour cette délivrance de génération en génération et de ville en ville. Les décisions de Mardoché, devenu grand vizir du roi, ont une nature davantage sociale que religieuse. En effet, il ne demande pas d'office de prière, ni de retourner en terre d'Israël afin de réaliser quelques offrandes, mais il demande de faire de grands festins, de s'échanger des colis alimentaires et de faire des dons généreux aux démunis. Dans le livre d'Esther, il y a une particularité. Le nom de Dieu n'est jamais mentionné. D'ailleurs, à ce sujet, il est étonnant d'avoir conservé ce livre dans le canon de l'Ancien Testament, car l'une des règles qui avait été fixée pour la constitution de ce canon, c'était d'écarter tous les livres qui ne contiendraient pas le nom de Yahvé. Et cette exception de ce livre a été motivée par le caractère héroïque d'Esther, qui a été présent justement à un moment décisif de l'histoire juive, et qui rappelle que le plan de Dieu, qui agit parfois en voilant sa face, apporte le secours et la délivrance de la part du Seigneur. Pour l'Église de Jésus-Christ, il peut être important de repérer ces deux facettes de Dieu, à la lumière de ces deux histoires de son peuple. La première facette, on le voit par rapport au peuple hébreu d'Égypte, était un peuple sans droit, qui avait été sauvé par l'intervention directe de Dieu, qu'ils avaient fait sortir d'Égypte. Alors que, dans le livre d'Esther, ces Juifs de Perse, qui étaient intégrés à leur nation perse, ont trouvé le salut dans une intervention humaine, Esther et Mardochée, qui ont renforcé leur présence dans leur pays d'accueil. Ceci n'est-il pas l'image de l'Église, qui a pour chef Dieu, mais qui doit vivre au milieu des hommes, afin d'être audible? Qu'est-ce que Dieu cherche dans l'Église? Il cherche la détermination, une dépendance à Dieu uniquement. Il cherche à ce qu'on reconnaisse notre responsabilité dans nos relations entre frères et sœurs. Il recherche aussi un ministère de prière, d'intercession et de jeûne. Pour certains commentateurs, la reine Esther représente l'image de l'épouse du Christ, c'est-à-dire l'Église. L'Église de Jésus-Christ doit être continuellement préparée afin de pouvoir partager le trône de Christ pour l'éternité. Je me demande souvent si nous avons la vision de ce que Dieu a prévu pour l'Église, son épouse. Nous ne comprenons pas grand-chose à ce qui se passe dans nos vies en tant que chrétiens, à moins que nous nous rendions compte que nous sommes déjà en train d'être préparés à régner. Si nous avons cette espérance, cela change notre manière de vivre. Dans ce cas, Dieu nous permet d'être patients, tout comme Esther et Mardochée l'ont été. 12 mois de préparation pour préparer Esther à rencontrer le roi. Dieu nous permet d'être patients et nous permet de traverser des expériences, pas forcément tout le temps agréables. Égaï, le gardien des femmes, fixe les prescriptions pour la préparation de la future reine. Quant à Mardochée, il demeure proche et disponible pour Esther, et par tous les moyens, il a le souci de s'enquérir de la situation dans laquelle se trouve Esther. Mardochée avait élevé Esther, fille de son oncle, comme sa propre fille, et avait pris soin de l'enseigner sur la loi de Dieu. Ces deux personnages pourraient représenter celui qui enseigne, celui qui dirige, celui qui conseille, mais aussi celui qui est appelé à côté d'autrui pour consoler, encourager, exhorter, plaider, réconforter, relever, stimuler, exciter, soutenir, conseiller, défendre, protéger, intercéder, supplier, prier, demander, inviter, reprendre avec bonté. Tous ces attributs sont celui du paraclet, du Saint-Esprit. C'est une image, bien sûr. Le Saint-Esprit connaît mieux que nous ce qui plaît au roi. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui essayent de se parer eux-mêmes et choisissent leur propre ami spirituel. L'une des choses les plus difficiles pour les personnes religieuses, c'est de rester naturel. Rappelez-vous que l'objectif du Saint-Esprit est de vous embellir, de vous sanctifier, de vous rendre beau, tel que Dieu le désire. Pour comparaître devant Dieu, il est important d'avoir en priorité dans son cœur l'obéissance et le respect. La reine Vasti a été déchue de son rang de reine à cause de sa désobéissance au roi. Elle était préoccupée par son propre programme, ses propres activités. On le voit au verset 9, chapitre 1. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Et son refus excita la colère du roi, comme il est dit au verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Cet épisode doit nous enseigner à discerner la volonté de Dieu dans l'exercice de nos programmes, de nos activités d'Église. L'important est de rester à l'écoute et à la disposition de nos frères et sœurs et au service de Dieu. Posons-nous la question suivante. Ne nous arrive-t-il pas parfois de refuser l'appel de Dieu? quant à Esther. Malgré les difficultés de la vie, puisqu'elle était orpheline, Dieu a permis qu'elle bénéficie d'une éducation parentale de la part de Mardoché, qu'il avait recueilli. Esther a grandi en recevant une bonne éducation. Son caractère avait été bien formé. Et lorsqu'elle a été sous la pression des circonstances, elle a supporté l'épreuve grâce à cela. Elle a également continué à reconnaître l'autorité de Mardoché, bien qu'elle aurait pu jouir de sa place de reine et ne se soucier que d'elle. Sachant l'énorme risque qu'elle prenait pour déranger le roi, elle demanda avec foi la prière de son peuple et obéit à la sollicitation de son oncle. Sachons, nous aussi, prier et demander avec ferveur avant d'agir. Esther était prête pour se présenter devant le roi. Et nous, sommes-nous prêts à nous présenter devant notre Dieu? Quelles sont les qualités d'Esther? Ou quelles devraient être les qualités de l'Église? Esther était audacieuse. Je pense que l'Église doit être audacieuse. Esther était courageuse. Je pense que l'Église doit être courageuse. Esther était obéissante. L'Église doit être obéissante. Elle était patiente. L'Église doit être patiente. Elle avait une foi forte. C'est ce que demande le Seigneur à son Église, d'avoir une foi forte. Esther n'avait pas vu le roi depuis 30 jours. Elle ne savait pas quel était l'état d'esprit du roi, ni quelle serait sa réaction. Parfois, nous, les chrétiens, nous passons par des épreuves où Dieu semble lointain. Nous devons être patients, continuer de croire, de prier, de lire notre Bible. La foi n'est pas un sentiment, ni une connaissance intuitive. C'est ce qu'il nous reste dans certaines situations de désert. Si vous n'avez pas la volonté de traverser une épreuve, vous ne pouvez pas conseiller les autres de le faire. Il faut soi-même être dans le besoin pour guider ceux qui comptent sur nous pour leur montrer la conduite à suivre. Et Aman, que peut nous représenter ce personnage? Pour bien comprendre l'attitude d'Aman, il faut tout d'abord observer l'attitude de Mardoché, qui lui est demeuré intègre, fidèle à la loi de Dieu, et qui n'a accepté aucun compromis vis-à-vis des sollicitations des serviteurs de Aman, qui souhaitaient le faire s'incliner face à lui. En effet, la loi de Dieu interdisait à quiconque de son peuple d'avoir une attitude d'adoration envers qui que ce soit d'autre que Dieu. La fidélité envers Dieu amène une épée sur le peuple. C'est l'image de la lutte de toujours entre le bien et le mal. Satan veut détruire le bien, le peuple de Dieu dans notre texte, mais Dieu va délivrer d'une façon inattendue. Aman a soif de pouvoir, et lorsque son autorité est bafouée, il est blessé et réagit violemment par orgueil. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons constater que s'y déroulent des luttes entre le mal et le bien qui se manifestent par des guerres, des tueries, du sang. C'est vrai que ça nous choque, mais voilà comment ça se passe dans l'Ancien Testament. Et c'est encore le cas dans notre texte, puisqu'à la fin, les Juifs doivent massacrer ces Perses qui voulaient les massacrer. Il est à noter, je dirais c'est une façon de voir les choses, que Aman était un fils d'Agagite, comme il dit au verset 1 du chapitre 3. Et cette descendance peut laisser à penser que, ce genre d'interprétation d'ailleurs qu'on trouve dans certains commentaires, que Aman était un descendant du roi Agag. Et Agag, c'était le roi du peuple amalécite, ennemi implacable d'Israël au temps du roi Saoul. Dieu avait donné à Saul un ordre strict par l'intermédiaire du prophète Samuel de détruire entièrement ce peuple, qui, justement, s'il était épargné, demeurerait une menace. Saul n'avait pas complètement obéi, puisqu'il avait épargné les meilleurs brebis, le meilleur bétail, sous prétexte de vouloir les offrir en sacrifice à Dieu, et il avait aussi épargné le roi Agag. N'est-ce pas une troublante coïncidence? Le descendant d'un ennemi épargné, qui voue une haine totale à un peuple qui a épargné son aïeul. Cela représente une leçon claire. Si Dieu dit de détruire quelque chose, de vous en défaire, de vous en débarrasser, n'épargnez rien, car ce que vous laisserez vous détruira. Pas de compromis avec le péché. Dieu a laissé l'homme libre. Il le laisse libre de ses choix, mais il met une limite. Pas de compromis entre le bien et le mal. Il faut choisir. Vivons dans la reconnaissance à Dieu. Soyons reconnaissants pour les situations dans lesquelles nous sommes. Car qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que nous sommes au service du Seigneur? Soyons reconnaissants pour le secours et la délivrance de la part du Seigneur dans nos vies et dans l'histoire du peuple de Dieu. Soyons reconnaissants pour nos églises qui nous permettent de vivre la communion fraternelle en présence de Jésus. Soyons reconnaissants pour le Saint-Esprit qui nous conseille et nous stimule. Merci Seigneur. Amen.